dans la suite des réflexions que je vous ai proposées pour ce temps de Pâques sur ce qui se passe après la mort, sur les fins dernières. Cette fête aujourd'hui de l'Ascension, c'est le jour idéal pour parler du purgatoire, surtout cette année, au lendemain de l'armistice du 8 mai 1945. Nous avons célébré la messe hier pour les âmes de tous les morts de toutes les guerres, puisque c'est l'origine biblique de notre prière pour les âmes du purgatoire. C'est la prière qu'on trouve relatée dans l'Ancien Testament au deuxième livre des martyrs d'Israël pour des soldats qui étaient morts sur le champ de combat, sur le champ de bataille, morts au combat, et sur lesquels, malgré leur mort héroïque, on avait trouvé ensuite des objets idolâtres. Ils avaient été fidèles à leur nation et infidèles à Dieu. Et le texte dit, on fit la quête, on organisa une collecte pour offrir un sacrifice pour leurs péchés. Et le texte est magnifique, dit, c'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection. C'est ça la prière pour les défunts. Car si on n'avait pas espéré que ceux qui étaient morts allaient ressusciter, prier pour eux n'a pas de sens, ça aurait été absurde, super, en tout cas superflu. Voilà pourquoi on a fait ce sacrifice d'expiation, pour que les morts soient délivrés de leurs péchés. Le purgatoire, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un temps. Pas de question de se demander combien de temps ça dure, c'est pas ça le sujet. Le purgatoire désigne l'état des personnes défuntes dont l'âme a encore besoin d'être purifiée pour se tenir face à face, en présence de Dieu, pour jouir du bonheur éternel, de la compagnie de Dieu et de tous les saints. C'est un dogme de foi auquel correspond, comment on l'appelait, une pépite de l'histoire. Ça s'est passé au XIVe siècle de notre ère. Au début du XIVe siècle, exactement en 1316, il y a un nouveau pape qui est élu, le pape Jean XXII. Jean XXII qui est élu pape en Avignon, c'était dans la série des papes d'Avignon, et le premier pape qui se soit véritablement installé dans Avignon, même dans la ville d'Avignon, d'autant qu'il en avait été l'évêque quelques années plus tôt. Il était pourtant originaire de Cahors, et il est élu à 72 ans. Vous savez comme ça se passe dans ces cas-là, on se dit « Oh, ça va être un pape de transition ». Non seulement 70 ans à l'époque, c'était déjà assez vénérable, et puis c'était un homme tout petit chétif, avec une petite voix fluette. Alors ils se sont dit « Oh, il ne va pas durer longtemps, on peut les lire sans problème ». Et il ne faut pas suivre aux apparences. Il avait une santé de fer, portée par une hygiène de vie remarquable. Il est mort à 90 ans. 18 ans du pontificat, c'était le plus long de tous les papes d'Avignon. Et pour autant, il n'a pas laissé un bon souvenir. Dans l'histoire de la papauté, dans l'histoire de l'Église, c'est assez variable, à tel point qu'il a fallu attendre Jean 23, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre pratiquement 600 ans, 6 siècles, pour qu'il y ait un autre pape qui accepte de reprendre ce prénom de Jean. Jean 22, 14e siècle, Jean 23, 20e siècle. 6 siècles pour attendre. Pourquoi ? Parce que Jean 22 a commis beaucoup d'erreurs théologiques. On peut être pape et faillible. L'infaillibilité pontificale, c'est tout à fait autre chose. La pire de ses erreurs, ça a été sa contestation de la pauvreté du Christ et de l'Église. Ça, il disait non, ça ne lui plaisait pas, il disait non. Mais celle qui nous intéresse ce matin porte justement sur les fins dernières, sur ce qu'on appelle la vision de Dieu, qui est au cœur effectivement de notre espérance. Voir Dieu, la vision de Dieu après la mort. Jean 22 avait un jour dans un sermon déclaré que cette vision de Dieu, c'est uniquement à la fin des temps, après le jugement dernier. Et ce n'est pas pour l'âme séparée du corps. Et il avait même écrit ça dans un écrit de 1333, c'est facile à s'en souvenir, 1333, mais qui avait suscité une telle émotion que le roi de France, Philippe VI, Lui-même s'était emparé du sujet. Il avait ordonné effectivement que des théologiens s'en occupent, qu'on puisse y avoir une discussion, parce que c'était totalement contraire, non seulement à la théologie la plus traditionnelle, mais à ce qu'on appelle le sensum fidei, le sens de la foi, ce que pense effectivement le peuple chrétien. Jean 22, qu'est-ce qu'il pensait? Il disait, non, les âmes des défunts, il reprenait l'expression du livre de l'Apocalypse, il disait, les âmes des défunts sont sous l'autel de Dieu. Sous l'autel de Dieu, et qu'est-ce qu'elles voient? Uniquement le Christ dans son humanité, mais la vision de Dieu ne sera donnée qu'après la résurrection, qu'après le jugement dernier, qu'à la fin des temps. Contestation, émotion extrêmement vive. À l'époque, on s'occupait de sujets autrement plus intéressants qu'aujourd'hui. Et sous la pression, Jean 22 convoque une commission de cardinaux et de théologiens, et comme c'était quand même un homme honnête, il s'engage publiquement devant eux et dit, c'était le 3 janvier 1334, il dit, c'est bon, je ferai amende honorable, je rétracte ma position si vous me montrez qu'elle est contraire, effectivement, à la doctrine de l'Église. Et bien c'est ce qu'il a fait à la fin de l'année. Il a eu les résultats de tous les travaux, on lui a expliqué correctement, il a reçu cet enseignement, et il a eu l'humilité de faire cette rétractation solennelle devant tous les cardinaux, et comme l'histoire est bien faite, ça c'était le 3 décembre 1334, il est mort le lendemain. Ouf ! À un jour près. Il a eu quand même eu le temps de se convertir. Son successeur, autre prénom assez connu pour un pape, Benoît XII, qui avait d'ailleurs comme cardinal composé un traité sur le statut des âmes, les âmes des saints avant le jugement dernier, avant le jugement général, où évidemment il détaillait la position la plus traditionnelle, contraire à celle de Jean 22. Et dès son élection, Benoît XII convoque une nouvelle commission de théologiens, et à l'issue de leurs travaux, il publie un des textes essentiels de l'histoire de l'Église en matière de fin dernière, une bulle dogmatique Benedictus Deus du 29 janvier 1336, qui est un document majeur et un tournant doctrinal décisif sur ces questions de fin dernière, ce qui se passe après les morts, et surtout qui constitue une explication objective de ce que nous célébrons ce matin, l'ascension du Christ. Dans cette bulle, le pape Benoît XII déclare que les âmes des défunts qui n'ont plus besoin de purification n'attendent évidemment plus dans un état intermédiaire, mais, je cite, « même avant leur réunion avec leur corps et avant le jugement général, elles sont et seront dans le ciel de sorte qu'elles voient la réalité divine en vision directe et en face à face sans médiation d'une créature. » Voilà ce qu'est l'explication parfaite de l'ascension du Christ. Le ciel est ouvert. Le Christ est au ciel avec son humanité, notre humanité, et nous ouvre le royaume de Dieu. Il est la porte du ciel. Il dit, je suis la porte et vous êtes les brebis. Il est la porte et nous sommes les sauvés. Et si une personne, si l'un d'entre nous passe par la mort, véritablement uni au Christ, il entre directement dans le royaume, il voit Dieu de ses yeux de bienheureux. Les âmes qui n'ont plus besoin de purification sont au ciel. Elles voient la réalité divine. En face à face, de façon directe, sans aucune médiation, les âmes qui ont encore besoin de purification, mais qui vivent déjà dans l'amitié divine, passe effectivement par le purgatoire, et c'est un élément essentiel de notre vie, nous prions pour elles. Voilà aussi pourquoi nous venons à chaque messe, pour prier pour les défunts, parce que nous ne sommes pas des égoïstes, pas seulement pour nos défunts, pour toutes les âmes des défunts, parce que nous pouvons les aider, en vertu justement de la communion des saints, nous pouvons contribuer à leur purification par notre prière, par des messes, par des aumônes, par des œuvres de pénitence, exactement ce que nous définissons à chaque carême, la prière, l'aumône et le jeûne. Mais Ce qu'il faut tenir avant tout, c'est qu'à partir du moment où on est au purgatoire, le salut est garanti. Est garanti. Non seulement le purgatoire n'est pas obligatoire, mais le purgatoire, c'est déjà une victoire. Déjà une victoire. Hosanna,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna.